protestants au pluriel, des convictions qui dialoguent, un engagement qui résonne.
Bonjour à tous, protestants au pluriel, Yolande au micro pour vous faire découvrir la richesse du protestantisme français. En effet, nous allons à la rencontre des églises et membres de la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'église adventiste du septième jour, représentée par son président, Ruben de Habreux. Bonjour Ruben de Habreux.
Bonjour.
Alors vous êtes président donc de l'église adventiste du septième jour au niveau français.
Oui et non. Oui, parce que je représente l'église adventiste en France métropolitaine. La différence est que la France est organisée de manière politique. Nous avons les DOM et les TOM, mais l'église adventiste, elle est organisée de manière géographique. Donc, on est un peu éclaté dans l'organisation dans d'autres domaines. Donc, moi, je parle au nom de la France métropolitaine.
Bon, donc le président de la France métropolitaine, on va pas rentrer dans toutes les subtilités. On va voir votre identité. On va commencer très simplement. Quel serait votre slogan pour définir votre association?
C'est très complexe parce qu'il y en a pas un slogan. Il y a plusieurs idées qui sortent selon les différents plans stratégiques. Et actuellement, pour l'Église mondiale, nous avons un slogan qui est lié à la mission et à l'engagement individuel du discipulat de chaque chrétien, que c'est « J'irai »,« I will go ». Et ça couvre un peu l'ensemble de cette intentionnalité missionnaire du mouvement adventiste.
Donc le slogan « J'irai ». Et un verset biblique particulier qui vous vient à l'idée, je suppose qu'il y en a plusieurs.
Oui, c'est un peu la même chose. C'est difficile de tout concentrer dans un verset biblique, mais peut-être par mes visions personnelles, moi je prendrais Jean 14, 1 à 3, qui nous dit « Que votre cœur ne se trouble pas ». Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon vous aurez dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Cela me vient immédiatement à l'esprit par trois idées. La première, c'est le sens d'être christocentrique. Sans le Christ, il n'y a pas de religion. Sans le Christ, l'Église devient un club social ou quelque chose d'autre. Mais avec le Christ, ça nous donne un sens à la vie, ça nous donne une intervention sociale aussi, parce que nous devons contribuer à cette dignité humaine et de montrer que le Christ est le chemin de cette espérance et donc la mission qui y est.
Et vous considérez comment par rapport à l'association? Quel est votre rôle?
Ça dépend de à quel niveau vous posez la question. En tant que chrétien, en tant que membre, en tant que pasteur ou en tant qu'administrateur? Parce que.
En tant qu'administrateur.
Les choses sont très différentes, je pense.
Oui, bien sûr. En tant qu'administrateur.
Oui, moi je dis d'habitude que le pastorat, c'est ma vocation. La jeunesse a toujours été ma passion. Et que l'administration, c'est parce que l'Église me le demande. Et il y a un rôle qui est interne dans la coordination, dans la motivation, dans la présentation de projets aussi. Il y a un rôle légal et juridique, en particulier ici en France, dans toute la structure que nous avons pour fonctionner selon les lois du pays. Mais après, je pense qu'il y a aussi un rôle de diplomatie, de relations publiques vers l'extérieur et les rapports avec les autres églises et les rapports avec les autorités.
On va donner quelques chiffres. D'abord, la date de votre création. Alors, il faut rappeler que c'est un mouvement international. Donc, peut-être les deux dates, la date du mouvement en tant que tel et puis la date de la création en France.
Bah, le mouvement, il commence dans les années 1800, qui viennent du réveil, je pense qu'on peut dire puritain des États-Unis, où des gens venus de un peu de partout et plein de confessions différentes s'attachent autour du retour du Christ. Et ça reste comme un mouvement. Ils voulaient pas s'organiser en tant qu'église. Mais ça va être, si la mémoire ne me trahit pas, le 21 mai de 1863, dans une assemblée à Battle Creek, dans l'état du Michigan, aux États-Unis, où le nom et la structure a été finalement défini. Donc, on considère que c'est là le début de l'Église adventiste de manière officielle. Il y avait, si je me trompe pas à ce moment-là, 3500 membres. C'était quand même un mouvement qui s'étalait, mais qui voulait vraiment avoir cette dimension missionnaire d'alerter vers le retour du Christ imminent.
Dans le monde, vous avez combien d'églises à peu près, combien d'associations cléricales, enfin d'églises?
Oui, nous avons plus de 100 000 églises. Nous sommes actuellement au 31-12-2024, on dépasse les 23 millions de membres baptisés. Et ça, c'est une nuance très importante, parce que quand nous parlons de membres, c'est des membres adultes et qui ont pris l'engagement par le baptême et qui adhèrent de cette manière à l'Église. Si on parle de tous les visiteurs, les sympathisants, ceux qui participent aux différentes activités, on peut considérer presque trois fois plus.
Combien de pays?
On est à plus de 200 pays de présence, soit directement en tant qu'église, soit à travers des branches différentes d'action de l'église. Par exemple, nous avons des pays où l'Église n'est pas organisée comme telle, mais nous avons les activités de jeunesse qui sont reconnues et collaborateurs des gouvernements en place.
Vos spécificités, votre singularité au sein du protestantisme, qu'est-ce qui vous distingue du reste des autres églises?
C'est un peu particulier, je ne sais pas si vous voulez des questions pratique ou théologique, mais moi je dirais que nous sommes une église qui est un peu entre deux. On est héritier de la réforme historique, avec beaucoup de choses liées à Luther, à Calvin, même l'héritage des solas, le centre de la Bible dans notre théologie et dans l'approche même de la vie, le sens holistique de l'être humain. Mais après, même dans le contexte historico-social dans lequel nous apparaissons, on va avoir des liens et une identité aussi évangélique qui se voit particulièrement dans l'engagement de la mission et du partage de l'espérance.
Et holistique, vous pouvez préciser?
Oui, c'est la manière globale de voir l'homme, pas comme des entités séparées, mais voir l'homme dans le tout, dans l'aspect physique, l'aspect intellectuel, psychologique, spirituel. Et ce qui amène à que la branche santé soit très présente chez nous, justement par cette approche. Pour deux raisons. D'un côté, il y a la connexion avec Dieu qui se fait d'une autre manière quand notre esprit est pas contrôlé par des éléments toxique ou là je peux parler l'alcool, la drogue que ce soit, mais aussi la dignité humaine elle-même qui est mise en évidence par les approches de santé. Et c'est pour ça que nous avons des sanatoriums, des hôpitaux, des universités qui travaillent dans ce sens.
Oui, une de vos spécificités, donc, c'est ce rapport particulier à la santé, à l'alimentation, enfin, ce point très important. Et puis, le Shabbat, c'est-à-dire que vous faites vos cultes le samedi.
Oui, ça va un peu plus que la question du culte uniquement, parce que ça a à voir vraiment avec une notion, encore une fois, de la globalité de ce que c'est l'homme. Et le sabbat, même quand nous sommes pas dans le temple, il peut être vécu en famille avec le même sens de louange et de rapport avec le Christ. Donc l'objectif, c'est pas uniquement une question de rituel, mais c'est presque faire des choses que durant la semaine on ne fait pas, donner priorité à Dieu durant ces heures de sabbat.
Et ces spécificités que vous venez de mentionner, elles se vivent de la même façon pour tous, ou est-ce qu'il y a des différences d'engagement, si je peux dire, en fonction des lieux ou des personnes?
Je ne sais pas si on peut parler d'engagement en soi, mais de pratique, oui, certainement. Parce que dans sa globalité en tant qu'Église mondiale, il y a un réseau énorme et donc il y a une absorption de culture aussi de pratiques. Je vous parlais de questions d'héritage tout à l'heure, héritage historique, mais il y a quand même des héritages sociaux. Je vous donne un exemple. Moi, je suis portugais. Même si je suis adventiste de deuxième génération, mes parents et mes grands-parents, ils sont des convertis venant de, comme la grande majorité des Portugais, du catholicisme. Et donc, même dans la manière dont on va vivre le sabbat, moi j'ai reçu beaucoup de choses que je les retrouve dans la manière de se relationner avec Dieu, qui viennent de ces héritages. Ici en France, nous vivons une situation beaucoup plus diverse actuellement. Nous avons des gens qui viennent un peu de partout du monde, des Coréens, des Haïtiens, des Ghanéens, des Roumains, des Portugais, et c'est une richesse. En même temps, un défi d'intégration, mais c'est une richesse extraordinaire, parce que même dans la louange, même dans la pratique du sabbat, son interprétation dans la vie de tous les jours, il y a ces parfums différents.
On va passer à la seconde partie, qui est la radioscopie de votre église. Comment vous vivez concrètement, par exemple, la forme du culte dans votre église? Comment ça se passe, un culte?
Ça revient à des éléments de ce que j'avais dit tout à l'heure. Ça dépend où vous allez et dans quelle église et quelle communauté vous allez. On n'a pas une structure figée. Il y a des éléments communs. La musique, elle est toujours en sens primordial dans la louange, dans l'adoration, mais aussi dans la préparation de nos esprits pour l'approche à ce rapport avec Dieu, avec le Christ. La Bible au centre, la parole est vraiment très importante pour nous, avec un sens de découverte, de profondeur. C'est pour ça que nous avons normalement deux moments le sabbat matin. Un moment qu'on appelle l'école du sabbat, que au fait il y a une thématique mondiale que on étudie tous les jours et chaque semaine à la maison et individuellement, et le sabbat, quand on revient ensemble, en petit groupe, on fait la discussion de ce qu'on a vu durant la semaine, mais on partage des doutes et on va un peu plus loin. Le deuxième aspect, c'est la prédication, qui est aussi liée à ce centre de la Bible dans notre culte. La prédication qui reste toujours avec une grande importance.
Et qu'est-ce que votre Église apporte à vos fidèles et à la société?
Je pense que si on parle en interne, il y a deux questions que je mettrai en évidence. La première, c'est ce sens de transformation, de donner dignité à la vie, de donner un sens à la vie à travers la présence du Christ. Vous avez évoqué les questions de santé, mais je pourrais aussi évoquer les questions d'éducation. C'est avec une certaine fierté qu'on aime des membres qui sachent, qui appartiennent encore, mais qui sachent réfléchir par eux-mêmes et avoir des positions qui amènent l'Église à se développer et à grandir. À la société, oui, il y a plusieurs branches qui sont peut-être plus évidentes. Le grand réseau d'éducation que nous avons, depuis des écoles maternelles jusqu'à l'université, dans des différents domaines qui vont, bien évidemment, le premier, la théologie, mais qui passent par les différentes sciences, les recherches au niveau de la santé, par exemple. Et là, je peux pas oublier le plus connu, l'hôpital de chercheurs, faculté de Loma Linda, où il y a quelque temps, il y a une revue de National Geographic qui est sortie sur ce sujet par la longévité des membres qui y habitaient. Il y a la question liée à la liberté religieuse. C'est vraiment, c'est vraiment un autre domaine dans lequel on est beaucoup engagé avec l'Association internationale pour la liberté de conscience et la liberté religieuse. Nous ne sommes pas en train de parler uniquement des questions de sabbat. Nous ne défendons pas uniquement des adventistes, mais vraiment l'expression globale du culte, parce que c'est un droit de chaque être humain. C'est vrai que des fois, même en interne, c'est pas très bien compris cette dimension, mais on n'est pas là pour défendre uniquement une cause, mais la cause de la liberté. Et puis finalement, je pense que je pourrais mentionner aussi la dimension humanitaire avec ADRA. ADRA, même si ADRA est très discrète.
Vous pouvez définir ADRA?
ADRA, c'est l'Agence humanitaire adventiste, c'est un réseau mondial qui est un peu partout et dans les grands événements. ADRA est aussi en France et il y a une base dans le bénévolat. Des membres, l'engagement particulier des membres. ADRA en France a aux alentours de 80 antennes distribuées par toute la métropole. Je ne parle pas des DOM et des TOM, mais a un développement très très précis. Là, par exemple, si vous pensez dans les grands conflits, aux catastrophes actuelles, ADRA est présente sans faire de les unes des journaux. Et normalement, ce qui arrive, c'est que dans son attitude, quand les autres partent, que l'urgence est passée, ADRA reste pour la deuxième dimension de son travail, que c'est le développement.
Comment ça se passe avec les autres religions, notamment celles qui ne sont pas chrétiennes et même celles qui sont chrétiennes?
Notre rapport aux autres a aussi à voir avec notre rapport avec la société. Même pour accomplir la mission, on ne peut pas être isolé. Sinon, on peut pas avoir d'influence. Et notre rapport aux autres passe aussi par des rapports diplomatiques et d'une représentation du phénomène religieux de nos jours dans une vision d'ensemble, parce que on a déjà tellement de monde qui est contre le phénomène religieux et spirituel. Si nous, entre nous, nous ne sommes pas capables d'affirmer, en particulier les chrétiens, qu'on a quelque chose à apporter d'ensemble, même en affirmant nos identités propres et pourquoi pas des fois nos divergences, parce qu'elles font partie de nos identités, mais le rapport est un rapport de construction.
Et comment l'Église adventiste voit la place des femmes ?
La place des femmes, elle est d'intégration. Je pense que vous êtes en connaissance que même dans le début de l'Église adventiste, il y avait des femmes qui étaient références. Par exemple, comme une dame qui s'appelait Ellen White, qui a beaucoup contribué au développement de l'Église. La seule grande discussion reste encore chez nous. Et je pense que du fait que nous sommes Église mondiale, ce n'est pas autant les questions théologiques, mais c'est les questions culturelles viennent, c'est l'ordination des femmes au pastorat. Que pour nous n'a pas trop ici, en tout cas dans notre territoire, n'a pas trop de problèmes parce que nous avons des femmes pasteurs, nous avons des diaconesses qui sont ordonnées, nous avons des anciens d'église qui le sont aussi, mais c'est la question de la consacration au pastorat.
Et les violences sexuelles, est-ce que vous avez conscience, je suppose qu'il y a des problèmes partout, est-ce que vous engagez dans le combat, comment vous engagez dans le combat contre les violences sexuelles ?
C'est très bien que cette question, parce que c'est un des sujets dans lesquels nous avons un historique très valable depuis plus de 20 ans, si je me trompe pas, avec un programme qui s'appelle End It Now.
Pardon, je sais pas.
End It Now. En français, on dirait finissons-en.
OK.
End It Now. Et c'est vraiment un programme, vous pouvez le trouver dans les réseaux, dans tous les contenus et les matériaux qui sont produits depuis longtemps dans le site qui est dédié à ce sujet. Mais il y a vraiment un engagement à plusieurs niveaux. Le premier, la prévention, d'en parler, de pouvoir former aussi et d'en parler auprès des pasteurs, des responsables d'église, mais aussi de agir. Et bien évidemment, on n'est pas fermé hermétiquement dans une bulle, et ça, c'est des questions qui existent, même si la politique de l'Église, ce n'est pas ni de cacher, ni de donner ou minorer le phénomène, mais au contraire de faire intervenir les autorités compétentes. Mais nous essayons de travailler beaucoup dans la prévention. Et ce n'est pas seulement les violences sexuelles dans lesquelles nous parlons, c'est aussi les violences physiques, les violences de manipulation
de
qui
pouvoir.
Peuvent être de pouvoir, parce que la ligne, des fois, elle est très fragile, et nous savons que dans certaines cultures, la fragilité est plus grande que dans d'autres, et donc on intervient.
Donc je rappelle, finissons-en donc pour ce problème de violence sexuelle et spirituelle.
Oui, mais vous n'allez pas le trouver en français, vous allez le trouver
en anglais. Donc end it now. Alors la troisième partie, donc vos défis, vos projets. Alors je voudrais vous demander particulièrement un défi de votre église. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Moi, les défis sont toujours des questions croissantes. Pour moi, à cet instant, le grand défi, c'est l'inclusivité dans la grande diversité. Vous remarqueriez, tout à l'heure on discutait en disant qu'on était présent un peu partout dans le monde. Déjà là, ce vivre ensemble, ce n'est pas le plus simple. Mais imaginez quand dans une région comme Île-de-France, vous avez tout le monde qui rentre dedans et vous devez le faire vivre ensemble. Je pense que d'un côté, vraiment, c'est un enrichissement, mais de notre côté, c'est un défi terrible, grandieux, pour faire comprendre que les questions culturelles restent au niveau culturel, les questions théologiques doivent rester à sa place. Et la fusion des deux, c'est pas toujours simple.
On va conclure maintenant sur la Fédération protestante de France. Qu'est-ce que vous attendez de la Fédération protestante de France et qu'est-ce que vous y apportez?
Oui, je pense que personnellement, je peux en parler là-dessus parce que ça fait quand même quelques années que je travaille, je baigne dedans, que je participe au conseil. Je pense que on peut apporter notre propre identité, notre manière de voir la vie, la Bible aussi, notre manière de réfléchir. Je pense que à notre niveau, il y a aussi une contribution de réseau, que ce soit national, que ce soit mondial, dans la structure que nous avons, que nous pouvons l'apporter. Dans notre côté, je pense que nous, on gagne déjà par une intégration dans une famille qui est plus large, qui nous permet de connaître les autres de manière plus proche, mais aussi, et je pense que c'est pas négligeable, d'avoir d'un côté une représentation d'une voix chrétienne dans les faits d'actualité commune quand c'est possible. Et ça, nous avons vraiment apprécié que dans des domaines où c'est pas possible de trouver une seule voix, les différentes voix qui expriment aussi notre identité ont été présentées. Et le dernier point, c'est aussi les rapports avec les autorités qui nous donnent une identité commune.
Eh bien, merci beaucoup, Ruben de Habreux. Donc, je rappelle que vous êtes président de l'Église Adventiste du Septième Jour au niveau français. Merci d'avoir été avec nous. On peut trouver plus d'informations sur votre site internet, je suppose. Donc, il faut taper Église Adventiste.
Tout juste Adventiste au singulier .org.
Bon, Adventiste au singulier .org. Merci à Benjamin Bories et à son équipe de production. Merci à nos auditeurs et à bientôt pour découvrir une nouvelle facette de Protestants au pluriel.
Merci beaucoup.
Protestants au pluriel. Des convictions qui dialoguent, un engagement qui résonne.